Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
S'il vous plaît, ici!
Hey, excusez-moi, mais on a vraiment besoin d'aide. On a un choc cardio-respiratoire.
Alison, je t'écoute.
C'est une femme de 50 ans qu'on a retrouvé inanimée derrière la porte.
On sait depuis combien de temps elle était là?
Non, on sait pas. On a mis personne à l'isolement, nous.
Quoi, elle s'est enfermée toute seule là-dedans, c'est ça?
Je dois retrouver ce dossier et comprendre pourquoi on l'a laissé une patiente pendant des heures dans une pièce.
C'est possible que t'aies examiné Madame Marciano, tu t'en souviennes pas?
Bah non.
Hugo, est-ce que tu as pu laisser ce dossier ici?
Elle était dans une pièce juste à côté de nous depuis des heures.
Je pouvais pas savoir.
Le milieu médical est hyper présent dans les séries Urgence, Scrubs, Grey's Anatomy ou encore la petite française Hippocrate. On se demande toujours quelle part de réalité il y a dans les scénarios souvent improbables qu'on nous propose. Alors, après deux saisons de Quoi de neuf doc, j'imagine que comme moi, vous vous dites qu'il y a quand même une grosse part de romance et d'imagination dans ce que vous voyez à l'écran. Et pourtant, ces séries sont souvent écrites avec des médecins consultants. D'ailleurs, la série produite par Canal+, Hippocrate, est écrite et réalisée par un ancien médecin, Thomas Lilti. Quand on la regarde, et notamment je vous conseille la dernière saison, on sent tout de même poindre une part de vérité. Hippocrate, c'est la vie de quatre jeunes internes dans un hôpital parisien. Pour en savoir un peu plus sur ces jeunes médecins qui démarrent leur carrière et qui sont encore en apprentissage, j'ai voulu rencontrer de vrais internes. C'est donc le sujet du jour. Arnaud Morel, vous êtes interne en médecine post-urgence. Géraldine Réchon-Patru, vous êtes oncologue et la référente des internes au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Arnaud Morel. C'est quoi un interne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors un interne, c'est un médecin qui n'a pas encore obtenu sa thèse, donc il n'a pas encore le titre de docteur. Il est encore considéré étudiant parce qu'il est en troisième cycle des études médicales, c'est-à-dire qu'il a déjà fait au moins 6 ans d'études et qu'il est donc habilité à prendre en charge des patients, mais sous la responsabilité d'un médecin senior qui, en théorie, est censé tracer tous ses actes et ses prescriptions. Donc on a un internat qui dure entre 3 et 5 ans et au décours de cet internat, on passe notre thèse qui nous permet donc d'accéder au doctorat et d'officier soit dans le milieu libéral, en hospitalier ou en clinique par exemple.
Sur un point un peu plus pratique, sur le terrain, comment est-ce qu'un interne est intégré à une équipe de soins?
Alors il faut savoir qu'on a un terrain de stage, une affectation tous les 6 mois qui est déterminée au niveau de la faculté de référence. Donc tous les 6 mois, on assiste à l'arrivée des nouveaux internes dans les hôpitaux où ils prennent leur poste et qui donc participent directement à la prise en charge des patients du service sous la responsabilité des médecins. Donc il y a une certaine autonomie relative, on fait ce qu'on est capable de faire et on se réfère à un médecin plus expérimenté pour les choses pour lesquelles on se sent débordé ou qui sont hors de nos compétences.
Pour être dans le concret, est-ce que par exemple vous avez le droit de prescrire des médicaments, une radio, un scanner ?
Alors, on peut tout à fait réaliser la quasi-totalité des prescriptions. Pour certaines, elles doivent être validées par justement un médecin qui est thésé. Mais en dehors de ça, on a une autonomie quand même assez complète. Et on peut donc réaliser les prises en charge qui nous semblent judicieuses à un moment donné. Et après, on peut toujours faire un retour sur expérience avec d'autres médecins pour s'assurer que le patient n'encourt pas de danger.
Sur la partie plus agenda, est-ce que vous faites des gardes et est-ce que ça vous arrive d'être tout seul dans le service?
Alors, c'est effectivement assez courant, même si ça dépend bien sûr de chaque service et de chaque hôpital. Mais en théorie, oui, on est tous tenus d'assister à un tour de garde qui permet d'assurer une permanence 7 jours sur 7 et pour laquelle, dans certaines situations, on est confronté à des choses assez compliquées. Hein. Il peut y avoir des patients en situation grave. On est aussi confronté à la mort parfois. Et selon l'organisation de l'hôpital, selon le personnel, effectivement, il y a des moments où on peut se sentir plus seul et où ça peut être vecteur d'anxiété parce que justement, on est démuni face à la situation. Mais bien sûr, ça dépend de chaque hôpital. C'est pas une réalité absolue non plus.
Et justement, quand on se retrouve comme ça seul, la première garde, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête?
Eh ben, je dirais que tout dépend de avec qui on est, parce que finalement, c'est l'accompagnement qui détermine aussi le ressenti de chacun. Hein. Pour ma part, j'avais eu de la chance, j'étais intégré à une équipe qui était quand même assez bienveillante et encadrante. Mais pour certains, c'est plus anxiogène parce que justement, on peut se sentir livré à soi-même. Il faut effectivement prendre le temps de réfléchir et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas se précipiter sous les effets de l'anxiété et justement de ne pas hésiter à en référer à quelqu'un de plus expérimenté pour les situations plus difficiles. Mais chaque interne a un ressenti différent de ses premières gardes, ça c'est certain.
Docteur Réchon-Patru, vous êtes la référente des internes. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour accompagner ces jeunes qui sont encore étudiants finalement sur une première garde, sur une première prise en charge de patients? Comment ça s'encadre?
Alors tout d'abord, je suis le correspondant médical des internes. Ça n'existe pas forcément dans tous les établissements. Et donc c'est un statut qui n'est pas hiérarchique, qui n'est pas disciplinaire. C'est vraiment un lien pour essayer de les accueillir au mieux. Et donc pour les accueillir au mieux, on essaie de mobiliser une journée, la première journée, pour leur faire visiter les lieux, pour décrire l'organisation de l'hôpital, les pôles, les référents, et de décrire quelles seront leurs missions au sein de chaque service, ainsi que la mission dans l'hôpital. Il faut savoir qu'un interne, il est sous la responsabilité de son maître de stage et qu'il est sous la responsabilité administrative du CHU en lien avec le lieu d'affectation et donc de l'établissement. Donc mon rôle à moi, c'est d'améliorer l'accueil, de renforcer l'accueil sous la forme de cette journée, qui est ce qu'elle est, qui est critiquable effectivement à Bourg, mais qui existe et qui se renforce de semestre en semestre, où vraiment tous les praticiens font l'effort et veulent essayer d'accueillir au mieux les internes. On a tous été internes et on a tous souffert d'être en première ligne ou de ne pas avoir les explications suffisantes. Donc une journée d'accueil. Et il faut que je sois le lien, un lien encore une fois qui n'est pas hiérarchique, entre les internes qui viennent chaque semestre, les lieux de stage, et donc les équipes médicales, l'administration, et être un lien, une écoute, une interface, une personne ressource, appelons ça comme ça, si individuellement il y a des soucis. Donc ce qu'on veut amener progressivement aux internes, c'est un lieu où on puisse leur donner les outils nécessaires pour détecter le burn-out. Et on est en lien actuellement, en tous les cas, on a une direction qui est assez, on va dire, dynamique dans ce sens, et qui veut faire appel à une association qui s'appelle Second Souffle, qui est gérée notamment par une équipe de psychiatres et psychologues, pour donner aux internes des outils pour repérer justement le burn-out d'une part et pour redébriefer des situations qui auraient été très complexes.
Vous venez justement d'en parler, il y a plusieurs syndicats d'internes qui alertent sur la dégradation des conditions, sur les conditions de travail des internes. On parle de dépression, de burn-out, et puis il y a le chiffre édifiant sur le risque de suicide chez les internes qui est 3 fois plus élevé que dans la population moyenne. C'est aussi abordé dans cette série Hippocrate. Arnaud Morel, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez entre internes et qu'est-ce que vous en dites?
C'est un sujet qui est abordé de manière assez régulière finalement entre les internes, même si encore une fois chacun a son ressenti puisqu'on vit vraiment tous un internat différent. À côté de ça, on est très réceptif aux dispositifs qui sont déployés vis-à-vis de ça pour la prévention, que ce soit pour le burn-out, la dépression, voire pour certains le suicide. Je pense qu'effectivement c'est un axe de travail qui est extrêmement intéressant dans le sens où il faut prendre le problème en amont pour être justement capable d'intervenir avant que des situations à risque se déclarent, en fait. Et justement, on est tout à fait disposés, nous, à coopérer pour le développement de dispositifs de ce genre. En ce qui concerne l'ensemble des internes de Bourg-en-Bresse, pour l'instant, on n'a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Justement, on est très favorable à ce dialogue avec les acteurs, que ce soit au niveau de la direction ou des équipes médicales. Et on est tout à fait favorable justement à se réunir pour discuter et pour refaire le point justement sur des événements qui pourraient être mal vécus, que ce soit sur les heures de travail ou en dehors. Et j'espère que d'autres hôpitaux sauront prendre cette initiative justement et qu'on espère que ça porte des résultats à moyen et long terme.
En parallèle à ça, il y a également sur les réseaux sociaux eu des hashtags autour de pression des supérieurs, de harcèlement moral, voire de harcèlement sexuel, parfois des rapports de domination avec certains médecins qui sont installés depuis des années dans leur service. Idem, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres internes? Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ça?
Alors déjà, Je pense qu'il faut distinguer les internes qui sont affectés à des hôpitaux de périphérie et les internes qui sont affectés à des CHU, donc les centres universitaires, dans le sens où, effectivement, pour l'interne qui a un objectif de carrière, que ce soit pour faire de la recherche, de l'universitaire ou travailler dans un hôpital de plus grande envergure, entre guillemets, il y a effectivement une omerta dans le sens où certains internes n'osent pas dénoncer les pressions qu'ils subissent de leurs supérieurs, justement parce qu'ils espèrent avoir un poste. Et effectivement, il y a des internes qui se retrouvent en grande souffrance parce qu'ils ne peuvent pas dévoiler ce qui se passe dans leur service. C'est encore une fois pas une généralité, hein, mais ça arrive. Et effectivement, je pense que c'est sur ces cas-là justement qu'il faut être particulièrement vigilant et qu'il faut savoir à la fois déculpabiliser ces internes qui sont en grande souffrance et qui n'en sont pas spécialement responsables et être capable justement de leur permettre de s'ouvrir au dialogue et justement remédier à ces problématiques. Ouais.
Un peu comme dans la société, certaines lignes bougent aussi dans le domaine de la médecine, de la santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez la médecine de demain, votre médecine à vous finalement ?
Je pense que déjà, il faut prendre en compte le contexte sanitaire actuel qui fait que la médecine sera sûrement plus jamais comme avant. Hein. Au final, tout a été remanié par la pandémie du Covid. Espérons que ce sera que temporaire, hein, que ça nous permettra d'officier dans de meilleures conditions à l'avenir, avec des ressources humaines et matérielles suffisantes aussi. Maintenant, j'ai une autre espérance aussi, c'est que ça n'affectera pas notre formation, parce qu'il faut quand même penser au fait que, comme le disait le docteur Réchampatru, on est étudiant avant tout, et que nos devoirs vis-à-vis de la pandémie font que certains ont une formation qui peut être altérée, dans le sens où ils sont affectés dans des services dédiés au Covid, et que pendant tout ce temps, leur formation n'est pas totalement ce qu'elle a pu être auparavant. Donc j'espère déjà que dans un premier temps, ça n'affectera pas... notre formation dans son ensemble. Et moi, pour ma part, à titre plus personnel, je n'ai pas spécialement d'impératif ni de projet particulier. Je me laisse le temps aussi de découvrir parce que on a un manque de flexibilité des maquettes. Hein. On n'a pas toujours le choix d'aller travailler là où on veut et il faut savoir, je pense, se laisser le temps de découvrir différents horizons avant de se fixer. Mais c'est un avis purement personnel et certains ont un plan de carrière bien établi. Encore une fois, il y a tous les profils.
Et Géraldine Réchampatru, on l'a dit, donc vous êtes la référente de ces internes, une oreille en fait, hein, à leur écoute. Quel regard vous portez sur ces jeunes médecins qui ont connu la crise du Covid et qui débarquent aussi dans un monde où finalement les lignes bougent aussi, la relation avec le patient, enfin voilà, tout change en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, je pense qu'effectivement, ce Covid a été particulièrement difficile parce que les formations, en tous les cas, les services ont été complètement remaniés et qu'il va être vraiment bon de retrouver son axe de formation. Je pense aux chirurgiens, je pense aux urgences, je pense à tous les services de médecine. La jeune génération, elle est différente de la mienne, forcément. C'est une génération qui est bien positionnée, qui parle, qui a envie d'échanger, qui n'acceptera sans doute pas les choses qu'on a pu accepter par le passé, mais qui est là au service du patient. Donc moi, ce que je pense, c'est que de par cette, y a beaucoup plus de discussions malgré tout, et les hôpitaux vont ouvrir de plus en plus de discussions. Sans doute qu'on est allé au bout aussi d'un certain système. Et que c'est vous, effectivement, qui allez faire la médecine de demain et qui diront stop à certaines conditions qu'on a pu accepter par le passé. Et on est tous persuadés de la difficulté de ce qu'est de se retrouver tout seul la nuit, premier semestre, devant 500 malades, en première ligne. On a tous été en première ligne. Et on l'a tous critiqué d'ailleurs. Hein. Donc on essaie de faire au mieux pour rassurer, pour renforcer. Les choses ont beaucoup changé, évolué en une dizaine d'années. Hein, pour justement les internes aux urgences qui étaient vraiment seuls, mais qui sont quand même beaucoup plus seniorisés. Il y a des choses qui n'étaient pas entendables, hein, qui ont évolué. Ça mérite encore d'être évolué et d'évoluer. Donc moi, je pense que par les langues qui se délient, par la discussion, par le côté d'être positionné dans ce qu'on veut, Je ne suis pas forcément inquiète malgré tout pour l'avenir. On a vraiment des gens qui sont de bonne volonté et encore une fois, qui posent les bonnes questions. Voilà, c'est normal d'être un peu désemparé la nuit, tout seul, devant une situation. À nous les médecins, à la structure d'un hôpital, de se poser les bonnes questions pour en fait mettre de la sécurité, puisque derrière, en fait, c'est la prise en charge du malade qui en dépend.
Merci au service communication du centre hospitalier de Fléria d'avoir facilité cet échange. Si vous voulez en savoir plus sur la vie et le quotidien des internes, c'est donc la série Hippocrate. La saison 1 est disponible dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse. On se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.